D'être à 18h au studio Kalangou. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de ce vendredi 23 octobre 2020. Nafissa Adam Sirfo à la présentation. Au sommaire, dans la région de Maradi, 80% des enfants de 0 à 5 ans malades du paludisme admis au district sanitaire de Tessawa souffrent d'anémie, une situation occasionnée par la négligence des parents, rapportent les agents de santé. À suivre dans ce journal, un reportage sur la hausse de prix de l'oignon constatée sur plusieurs marchés de la capitale. Dans le magazine de cette édition, nous parlerons de la problématique du dialogue parents-enfants sur la sexualité. L'hôpital du district sanitaire de Tessawa, région de Maradi, enregistre plusieurs cas de paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans. Selon un des responsables du centre de récupération nutritionnelle intensif, 80% des enfants pris en charge dans ce service souffrent d'anémie parce que les parents ne les conduisent pas à temps dans les structures sanitaires. Dr Mama Hamidou Moussa est au micro de Seydou Sanké.
Cette année, la situation du paludisme est vraiment préoccupante. Certains parents laissent leurs enfants atteints par la maladie jusqu'à un stade avancé. Plus de 80% des cas nécessitent une transfusion sanguine. Et faire de la transfusion sanguine à cause du paludisme, pour nous, cela relève de la négligence. Ça veut dire que l'enfant a attrapé la maladie depuis au moins 2 semaines. Nous conseillons aux parents d'amener leurs enfants dans les centres de santé dès qu'ils constatent qu'ils ont de la fièvre. Ce qui se passe actuellement est un grand défi pour nous, agents de santé, pour sauver leur vie. Donc, qu'ils amènent leurs enfants aux soins une fois qu'ils constatent qu'ils ont de la fièvre.
À l'image de plusieurs pays en voie de développement, l'agenda des objectifs du millénaire pour le développement est resté inachevé en Afrique et au Niger particulièrement. C'est ce qu'a déclaré hier la coordinatrice pays des Nations Unies dans le cadre des célébrations relatives à la semaine des Nations Unies en cours à Niamey. Malgré tous les efforts, beaucoup reste à faire pour l'atteinte des objectifs de développement durable à ODD. Kadia Toulo Ndiaye que je vous propose d'écouter.
Sur la base de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'Afrique a proposé un document cardinal dans les objectifs de développement durable. Celui-ci a porté sur d'abord la transformation structurelle des économies et la croissance inclusive, l'innovation, le transfert technologique, la paix et la sécurité. Le Niger a été parmi les 50 pays dans lesquels la consultation sur l'agenda préparatoire à l'adoption des ODD a été menée, à l'image donc de la plupart des pays en développement. L'agenda des objectifs du millénaire pour le développement est resté inachevé. Et de ce fait, l'agenda 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine doivent être saisis par le Niger pour relever les défis à l'atteinte des objectifs de développement durable.
Kadia Toulo Ndiaye, coordinatrice des Nations Unies au Niger. Les pêcheurs du département de Birnin-Konni, région de Tawa, ont reçu hier un don de matériel de pêche, un geste d'une ONG de la place afin de les aider à pratiquer leur métier dans de meilleures conditions en respectant les normes. Détail avec le lieutenant-colonel Moussa Iliassou, il est au micro d'Asmana Moussa Arzika.
Mais oui, c'est un tonnage important de matériel. Voyez-vous, même les pirogues sont au nombre de 30, munies de leurs accessoires, des pagaies, 60 gilets de sauvetage, 80 brouettes, 80 râteaux, 80 paires de chaussures adaptées à la traversée des eaux. Bref, c'est un nombre important de matériel divers. Des matériels pour désherber les mares, pour la pêche et même pour la transformation des produits de la pêche, des séchoirs de poissons, ainsi que pour la grillade. Ce que nous attendons des bénéficiaires, c'est de bien rentabiliser et bien gérer ces matériels. Ensuite, nous voudrions qu'à chaque randonnée de pêche, qu'ils nous annoncent le tonnage de poissons recueillis pour nous permettre de savoir s'il y a une avancée ou une régression de la production et du coup, asseoir les mesures qu'il faille prendre.
New Rice for Africa, Nerika, est une variétés de riz homologuées et cultivées au Niger et qui résistent à l'immersion profonde et aux inondations. Cette variété de riz s'est adoptée en Afrique de l'Ouest, notamment avec un rendement élevé, explique Dr Sido Amir Yakuba, chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRA. Il est joint au téléphone par Mokhtar Hamadou.
L'Erica, c'est ce qu'on appelle le New Rice of Africa. Dans les années 2000, il y avait une soixantaine de lignées Erica qui ont été introduites ici au Niger par l'INRAM. Donc on a pu homologuer deux Erica en 2004-2005. La Erica L39 et L49, ce sont vraiment des variétés qui s'adaptent à ces écologies-là, là où il y a une immersion profonde, là où il y a un problème d'inondation, etc. etc. Et les producteurs les connaissent. Hein. Vous savez les exigences des producteurs. À un moment, ils vont vous dire qu'ils veulent des variétés qui sont productives. À un moment, ils vont vous dire qu'ils veulent des variétés qui ne sont pas collantes. Alors que l'Erica, effectivement, avec le taux d'amylose qui fait que c'est des variétés qui collent un peu. Au niveau de nos populations, ici, les gens ne veulent pas le riz qui colle. Donc c'est ça qui a fait qu'à un moment, les paysans l'ont abandonné. Et ils disent aussi que ces variétés ne font pas le deuxième feu, comme on dit, le lendemain, on n'arrive pas à les réchauffer pour manger le matin.
Je vous le disais dans les titres, l'oignon est consommé dans toutes les régions du monde. Il fait partie des condiments les plus utilisés dans la cuisine nigérienne. Mais depuis peu, cet aromate est devenu très cher sur les différents marchés. Salamat Kadri s'est rendu aux étals des marchés d'oignon, au marché Habutegui et Ouadata. Voici son reportage.
Le prix de l'oignon continue de grimper sur les différents marchés de Niamey. Quelques clientes trouvées sur place se plaignent de cette hausse du prix. Elles sont contraintes d'acheter malgré tout, car l'utilisation de l'oignon dans la cuisine est presque devenue une geste indispensable par ici.
L'oignon est cher et donc sa durée de vie même n'est pas bonne. Au bout de 2-3 jours, c'est l'oignon qui pourrit. Je ne comprends pas comment se fait-il que la production nigérienne soit en manque. Jusqu'à ce que l'oignon, la demi-tasse, coûte 1000 francs. Donc nos paysans doivent faire quelque chose. Il ne faut pas qu'on soit toujours dépendant de l'étranger.
C'est trop cher, ça nous énerve, mais on va faire comment? On ne peut que faire avec. Peut-être avec le temps aussi, ça va s'améliorer. Des fois, tu vas prendre le petit saut, des fois à 3500, ce n'est pas facile.
Une situation que les commerçants ne manquent pas d'interpréter. Pour certains, cette montée des prix est due au fait que la grande partie de l'oignon est importée des pays voisins.
L'oignon coûte cher dès au niveau des grossistes. Le petit sac que nous achetions à 18 000 francs coûte actuellement jusqu'à 30 000 francs. Nous vendons la tasse communément appelée Tia à 2 000 francs.
L'oignon est importé du Nigeria et tout ce qu'on importe, c'est normal qu'il devienne cher. Et même là-bas, ce n'est pas partout qu'on trouve de l'oignon. Ce n'est vraiment pas bénéfique. Nous sommes restés dans ce commerce par habitude.
En attendant une éventuelle baisse du prix de l'oignon, la population prend son mal en patience.
Inquiétude des organisations de défense des droits de l'homme face aux violences observées à Conakry et dans plusieurs régions du pays après le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. À la suite de ce scrutin, l'opposant historique guinéen Selou Dialène Diallo s'était déclaré victorieux le lendemain des votes. La directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Samira Daoud, est jointe au téléphone par Habibou Garba.
Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation, que ce soit au Nigeria, en Guinée, mais aussi en Côte d'Ivoire. Pour ce qui est de la Guinée, évidemment, nous suivons de très près la situation. C'est un phénomène récurrent. Nous sommes préoccupés de voir que ces violences se poursuivent. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts pour le moment parce que nous sommes encore en train de recouper les témoignages concernant les violences qui ont eu lieu ces deux derniers jours depuis la fin du scrutin présidentiel. Mais plusieurs témoignages font état d'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité, soit pour disperser les manifestants, soit rentrer directement dans les quartiers et les maisons armées et s'en prenant aux civils. Aujourd'hui, dans ces pays-là, nous avons une véritable régression en matière de liberté, qu'il s'agisse de la liberté d'expression, de la liberté de manifester ou de se réunir, parce que ce sont des pays dans lesquels finalement aucune forme de dissidence ne peut s'exprimer, ni par la parole, ni à travers des mobilisations et des manifestations.
À présent, la situation nationale de la maladie à COVID-19, selon les communiqués du ministère nigérien de la Santé publique du 17 au 22 octobre 2020, 6 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été enregistrés sur 4239 tests réalisés en 2 semaines. Depuis le début de la pandémie, le 19 mars 2020 à aujourd'hui, le Niger a recensé 1215 personnes déclarées positives au COVID-19 sur un total de 34670 testés. Actuellement, on compte 109 personnes décédées, 1128 sorties guéries et 18 en cours de traitement, a précisé l'autorité sanitaire du Niger. Dans le cadre de notre série sur la voie de l'amour chez les jeunes au Niger, voici la rediffusion du témoignage de Mokhtar Ousmane Ndagadez.
Mon nom c'est Mokhtar Ousmane, j'ai 17 ans. À l'âge de 14 ans, une fille est tombée amoureuse, d'autres avant même. L'homme à partir de 13-14 ans aussi. Pour la femme, je pense, à l'âge de 15 ans, la femme peut se marier. Et l'homme à partir de 20 ans, c'est mieux pour son intérêt et pour sa vie. Et pour son futur, pour avoir un futur radieux. Bon, à partir de 15 ans, bon, j'aimais vraiment les filles intelligentes qui participent aux cours. Raison pour laquelle j'étais tombé amoureux de la fille qui était la première de ma classe. Et moi aussi, je faisais tout pour tomber dans le rang aussi, pour que je puisse bien m'en sortir avec elle. J'avais les 14 ans comme ça. C'était un peu compliqué vu qu'on était des gosses, mais on se comprenait parce qu'on s'entendait bien.
Les jeunes témoignent, une production de Studio Kalangou.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose, pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
À présent, le magazine de ce journal au Niger, la sexualité est un sujet tabou dans toutes les communautés, une situation qui pose la problématique de l'éducation sexuelle des jeunes au sein des familles. Faute d'aborder ouvertement la question avec leur enfant, certains parents sont très rigides par rapport à leurs sorties et fréquentations. D'autres, par contre, sont souples mais restent vigilants. Moussa Hassan s'est intéressé au sujet. Voici son reportage.
La cinquantaine dépassée, Amadou est père d'une étudiante et 2 garçons, dont le plus grand est au lycée. Pour lui, les enfants doivent s'épanouir avec leurs congénères, mais sous contrôle parental attentif.
Tu peux permettre aux enfants de sortir en ayant un regard sur les fréquentations et qu'est-ce qu'ils font là-bas. Dans nos coutumes, dès qu'on aborde certains sujets avec les enfants, on considère qu'on les pousse à la débauche. Alors qu'on doit échanger avec ces enfants, parler de tout, sans tabou. Ils vont se confier à toi et te comprendre. Ainsi, tu peux les conseiller sur les sujets tels que la sexualité. Mais tu ne peux pas aborder directement de tels sujets avec eux. Dès que ton enfant est pubère, son corps commence à changer et tu dois persévérer dans ces dialogues, multiplier les conseils, surtout avec les filles, pour éviter l'irréparable.
Considérés à tort ou à raison comme une génération dépravée, ces jeunes tentent tant bien que mal de s'adapter à l'autorité parentale. Écoutons leur témoignage.
Quelquefois, on me permet de sortir. C'est rester derrière les murs avec son copain que les parents détestent. Il faut le présenter à la famille.
Quand je demande la permission, on me l'accorde. Mais il y a des limites et des conditions. Elle nous conseille de ne pas fréquenter des mauvais amis. Parce que l'ami d'un voleur, c'est un voleur.
Le sociologue et communicateur Alou Aye affirme que l'éducation, c'est d'abord une compréhension, un accompagnement, afin que l'enfant découvre les obstacles de la vie et apprend à les surmonter ou à les contourner.
L'éducation, c'est d'abord la compréhension, un processus où on inculque à l'enfant les valeurs et les normes sociétales. Le premier aspect, c'est celui de la souplesse qui est l'émanation de la maman, chargée de transmettre ses valeurs avec courtoisie et des techniques, et l'autorité parentale qui intervient lorsque l'enfant a tendance à dériver. Lorsque l'éducation est rigide, surtout en termes de certains aspects qui sont tabous au niveau de la société, les conséquences sont énormes. Tout enfant qu'on prive de la réalité de la vie, il cesse de grandir dans la tête. Tout enfant qu'on prive, lorsqu'ils vont se détacher de leurs parents, ils vont découvrir toutes ces questions tabous et ils vont plonger dedans. L'éducation, c'est un accompagnement.
Selon le sociologue, de la même manière que le sorum suscite au sein du corps humain le mécanisme d'autodéfense, l'éducation doit amener les jeunes à connaître les défis de la vie et à savoir les affronter.
Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le forum de la presse est avec Mokhtar Hamadou et nos confrères de la presse pour le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève.